Claude, on continue à écouter la voix, les mots de Léo. Tu es venu avec, puisque c'est Léo en douce, ne l'oublions pas.
Oui, et puis comme on est dans une belle déborde, hein, c'était plus en 86, donc c'était dans d'autres interviews qui ont donné lieu à d'autres émissions. Et c'est d'ailleurs, je pense, le dernier interview reportage un peu que j'ai fait sur, avec Léo. C'était le 8 décembre 91. C'était au théâtre Tourski, qui était flambant neuf. À Marseille, il y a eu deux concerts. Léo est arrivé de Bastia, où il avait déjà donné un concert avec le Philharmonique de Lorraine.
70 musiciens.
Oui, 70 musiciens, oui. Et ce fut un moment, on le disait tout à l'heure, qui reste
gravé dans nos mémoires.
Dans vos mémoires. Voilà. Uniquement dans nos mémoires, oui. Mais ben, il y a quelque chose d'autre qui est gravé, là, dans ces sédiments magnétiques là, des cassettes de l'époque. Cet entretien, alors que après le concert il y avait une sorte de buffet qui était dressé, et puis je suis allé à la rencontre de Léo, et une fois de plus avec mon micro, et il jouait le jeu, et voilà quoi, on a commencé à parler de tas d'autres choses. Et après ce concert il s'est mis à parler de, parce qu'il jouait l'Amour des loups, et à ce moment là ça me revient, ça, à ce moment-là, il y avait le débat sur la peine de mort qui était de nouveau sur le tapis. On parlait de l'affaire Ranucci, le dernier condamné à mort, et toutes sortes de choses comme ça. Et donc la mort des loups, qui avait été écrite au moment de l'exécution de Buffet et de Bontemps, se trouvait de un peu d'actualité, et Léo Ferré a évoqué le président de la République de l'époque, qui avait refusé sa grâce. Enfin, il y en a eu plusieurs. Hein. Voilà, donc je trouve c'est particulièrement émouvant, parce que c'est sûrement le dernier interview qu'on va diffuser aujourd'hui, puisqu'on arrive à minuit, là. Il y en aura d'autres demain, hein, je pense.
Tout à fait, oui.
Et puis, en tout cas, c'est la dernière interview, je pense, que j'ai faite avec Léo Ferré. Voilà, on est à Marseille, c'est le 8 décembre 91, c'est la plage numéro 16. Merci, en technique. Merci, Manu.
Fantastique. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui n'étaient pas là, parce qu'ils n'ont pas pu venir?
Ah ben, je sais pas, je peux rien leur dire, je ne les connais pas. Et s'ils n'ont pas pu venir et qu'ils voulaient venir, c'est un grand lieu pour eux. Mais je voudrais leur dire que j'ai trouvé pour la première fois de ma vie, des musiciens, un orchestre fantastique et plein d'amitié. Je suis très ami avec eux. Je vais prétendre que j'aille les voir là-bas. Je pense, je leur ai dit qu'il y a des gens qui se mettront au milieu pour pas que j'y aille. Enfin, c'est que moi je suis pas aimé du tout, hein. Bon. Mais je vais gueuler!
Ce sont des gens d'ailleurs. Les artistes.
On pourrait imaginer pour moi que c'est de la mise en scène, ça. Tous ces gens qui sont venus plein d'amour comme ça. Jamais j'ai vu ça dans la musique. Jamais. C'est fantastique, ça. Alors là, tu sais, ça n'est pas un grand coup, hein. Un grand coup. Alors ça existe, c'est nouveau pour moi, l'amour. L'amour, les musiciens, ça existe aussi. C'est fantastique. Je peux rien dire d'autre.
La mort des loups, ça prend des résonances aujourd'hui avec des gens qui veulent remettre sur le tapis le débat de la peine de mort.
Ah ouais, je sais bien, c'est dégueulasse. Mais on va gueuler comme des ânes, non? Tu crois que ça va arriver?
Non.
Vu le petit là qui veulent pas, ils veulent pas recommencer le procès là.
Hein? Ranucci. Hein? Marseille.
Ah, ce Pompidou. Moi je l'appelle pompe à merde. C'est terrible, ce type. Un jour, moi je chantais à, je sais pas où, dans un grand théâtre à Paris. Il était. J'avais dit à un copain qui était à moi, va voir un peu ce qu'on dit, un peu pendant l'entracte, les gens, tu sais, comme ça. Ça m'intéressait. Et alors il a été voir. Il avait rencontré Pompidou avec un chanteur lannois, là. Oh là là, comment il s'appelle? Sa fille chante, comédienne, là, je sais pas comment elle s'appelle. Alors il paraît qu'il disait du mal de moi. Tous les deux. Hein? Et un jour, j'ai entendu Pompidou qui a dit, papa, j'ai pas demandé, on m'a dit, elle a dit, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il était président de la République, tu comprends? Hein? C'est horrible, quoi. Horrible. Horrible, horrible. C'est terrible. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien à faire. Faut gueuler, oui, comme des ânes. Et moi, je suis un âne, regarde. Je suis un âne. Au revoir, je vous embrasse.
Ciao, au revoir.
Alors, je propose que les auditeurs qui trouvent de quel chanteur à la noix parle Léo Ferré. Il parle aussi de sa fille, mais il la qualifie moins. Hein. Sa fille est comédienne, donc. Chanteur à la noix en question, qui était, vous l'avez compris, assez proche de Pompidou. Les auditeurs qui trouvent, ils gagnent un disque, un collector de Léo Ferré. 4 titres, édités par Chant du Monde, Harmonia Mundi. 4 titres issus de la vie d'artiste. Hein. Donc voilà, de qui parlait Léo Ferré. C'est un 10 jours, on a le droit de faire des jeux.
Hein. On a le droit. Les techniciens ont le droit de participer, on ne sait pas. Je sais pas. On va donner le numéro de téléphone, apparemment les auditeurs le connaissent, c'est le 04 67 66 33 33, 04 67 66 33 33. Peut-être que l'auditeur qu'on va avoir va peut-être vouloir dire quelque chose. On attend.
En tout cas,
là,
on gagne une cabine. Là. Les techniciens sont forts, tous les gens qui sont là derrière la vitre ont trouvé.
Non, c'est pas du tout pour le jeu, Claude, je suis vraiment désolé.
C'est pas pour passer à l'antenne non plus.
C'est pas pour passer à l'antenne.
C'est ta voiture est mal garée.
Ah. Bon. Ah, ça appelle, là, ça sonne de partout. À mon avis, ça va être bon, là, on va en avoir un. Ce concert du Théâtre Oski était fantastique. Hein, il y avait une émotion. Parce que diriger 70 musiciens. Et chanter, bah, il faut le faire, quoi. Et Léo arrivait à faire ça.
Oui, mais d'ailleurs, t'as connu d'autres
qui l'ont non, fait, non.
Qui ont dirigé leur musique, chantant leur texte, en même temps.
Moi, non.
Enfin, moi, je...
Quel était, tu te souviens?
Voilà, on va faire notre jeu. Alors, s'il y a des auditeurs qui en connaissent, mais qui peuvent vous dire, quoi.
Il y a un auditeur à l'antenne.
On a un auditeur, ça ne doit pas être pour la question qu'on vient de poser, mais on va le prendre à l'antenne, c'est parti.
Bonsoir.
Allô? Voilà, c'est vraiment du direct, mais non, c'est pas du tout pour passer à l'antenne. Bon.
Mathieu, quelle est la justification, enfin comment ton père voyait le fait de diriger et de chanter en même temps? En quelques mots, pour résumer cette démarche, pourquoi a-t-il entrepris cette démarche?
Avant que tu me poses la question, je vais dire, il n'y a pas de justification, jamais.
Oui,
tu as raison. Pas justification.
Non, mais ça partait d'un désir.
Pourquoi il faisait ça? Parce que parce qu'il est, comme ça. Il est comme ça. Au départ, il est musicien.
Voilà. Il a dirigé dès 50... Le premier orchestre symphonique qu'il dirige, c'est la chanson du Mal-Aimé. Ou c'est même avant, peut-être?
Je pense un peu avant, quand il a fait en fait une musique de film qui s'appelait Paris Taxi. Musique de film.
Oui.
Je pense 49.
Ah voilà. Oui.
Ça que personne ne connaît, d'ailleurs.
Non.
Nous, on n'a pas retrouvé vraiment de traces. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs... On peut lancer ça, s'il y a des auditeurs?
Oui, on peut lancer.
S'il y a des auditeurs qui ont la musique de Paris Taxi, ils gagnent 10 collecteurs. Mais
et après, c'est la chanson du Mal-Aimé.
De là, après, c'est la chanson du Mal-Aimé. Oui.
Parce que le rotorio 50, qu'il a écrit 54. Pour le mariage de sa sœur.
Ça, je sais pas. C'est pas un rotorio. Une messe. Ça sonne de partout. Tout le monde qui a la musique de Paris Taxi.
c'est une sorte de messe. Hein.
Oui, c'est des chants religieux.
Des chants religieux.
C'est,
oui.
Mais il n'y a pas de direction. Là, c'est un truc piano simple. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas d'accord.
Plusieurs instruments. Quoi.
D'accord,
enfin, il y a un instrument.
D'accord. Donc il faut passer à la chanson du Mal-Aimé,
54. À Monaco,
ouais.
En avril, mars-avril.
Ouais.
Et puis de 54, on va à. Il fait pendant 2-3 séances d'enregistrement chez Odéon, il dirige 2-3 fois quelques chansons, notamment Merci mon Dieu, qui est. D'ailleurs, on retrouve la couleur orchestrale et musicale. Si on prête l'oreille d'un Merci mon Dieu, mon petit voyou, on retrouve la même couleur qu'après, après 75, quoi. C'est en fait, c'est la même façon d'écrire les orchestrations, sauf qu'après, on lui en a empêché, quoi. Voilà. Monsieur Barclay est arrivé, il dit, non, Léo, t'es beau, t'es gentil, mais tu te mets là, tu fais tes trucs, et puis on va te mettre un bon arrangeur orchestrateur, qui lui sait faire les trucs à la mode.
Il s'entendait comment avec Jean-Michel Defay, oui.
Il trouvait, il considérait que Jean-Michel Defay avait beaucoup de talent. Et voilà. Sauf que moi, je considère que Jean-Michel Defay, les arrangements et les orchestrations qu'il a faites, donc toute l'époque Barclay, souvent, c'est des arrangements un peu datés, quoi. Et ça vieillit, quoi. Tandis que ce qu'il a fait, lui, comme orchestration, c'est pas pareil, quoi. C'est intemporel, quoi. Voilà. C'est ça. Je peux pas t'expliquer comment. Jean-Michel Defay, il a des défauts, des tics rythmiques, notamment. Il a toujours des petites percussions, c'est très jazzy, parce que c'était comme ça que ça se faisait. C'était à la mode dans les années 60.
Alors,
ça,
jouer
c'était
toujours
le son Barclay. Le son
toujours les provocateurs, avocat du diable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais toi, je m'appelle Jean-Michel Defay, est-ce que je peux dire que c'est parce que l'orchestration que j'ai faite à cette époque, correspondant à une certaine mode, à une couleur d'époque, donc couleur musicale qui correspondait au goût du public à ce moment-là, que Joli Môme a été un succès parce qu'il y avait ce mode d'arrangement.
Je sais pas, vous. Oui, peut-être, effectivement, peut-être, mm-hmm. Oui. Je sais pas ça, moi. Qu'est-ce que je te dis ça, moi? On n'est pas là pour réécrire quoi que ce soit, mais c'est possible. Mais, à mon sens, les orchestrations, notamment de Joli Môme ou de ainsi de suite, sûrement qu'on déborde, là, j'en suis
non,
désolé,
va,
mais la
va.
Musique, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était vraiment le truc de mon père, quoi, la musique, quoi. Et ça, on en a toujours fait chier, on a toujours emmerdé avec ça. On lui a jamais vraiment donné les outils, l'occasion, les instruments de faire ce qu'il voulait.
Jusqu'au moment où il l'a faite, où il a dirigé, voilà, avec l'Orchestre Philharmonique de Milan.
Voilà. À partir de 75. Et ça coïncide avec quoi? Simplement avec toute la période que les gens connaissent moins. Pourquoi tout ça? Parce que, voilà, quoi, il a dit, mais moi, j'ai envie de faire mon truc, et puis voilà. Et après, il n'y a personne qui s'est vraiment investi.
Parce que, comme avait l'air de le dire Claude, et toi aussi, vous aussi, au niveau de la musique, d'abord, on partait dans des formats, par exemple, de chansons, des formats qui étaient beaucoup plus longs. À partir de 75, on part sur des chansons qui sont plus longues, des chansons fleuves.
C'est pas tout à fait toujours vrai, ça non plus, hein. Attention, hein.
C'est vrai, bon, il y a des exceptions, mais d'une manière.
Oui, il y en a quand même beaucoup, des exceptions. Il y a beaucoup de chansons qui font 3 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes 30. Donc, non. C'est un peu trop facile, ça, de dire ça comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. Ta source, la marge, un jean sous deux.
Mais ta source.
À quoi? C'est des choses qui durent 3 minutes.
Tout à fait, mais ta source, elle est à la guitare, c'est pas une orchestration harmonique. D'accord, oui, bien sûr. Parce que cette chanson est sur un disque sur lequel il y avait des morceaux très orchestrés, fleuves, bien sûr.
Imaginaire.
Ça, il fallait. C'est merveilleux, ça.
Oui, c'est merveilleux, mais personne ne connaît, quoi. L'imaginaire, personne ne connaît. Ils disent oui, mais c'est.
Si ici on connaît, toutes les têtes bougent là. J'ai les noms.
Et puis il faut distinguer donc deux choses par rapport à cette approche de la musique et de l'orchestre, c'est que effectivement, à partir du moment où il a commencé à travailler avec l'orchestre de la RAI, qui s'appelait pas comme ça, qui est l'orchestre de Milan, pour des raisons contractuelles, il faisait ce qu'il voulait en tant que direction d'orchestre pour les enregistrements. Par contre, il a eu les pires difficultés pour pouvoir donner des concerts dans des salles avec des gens. Et chaque fois que ça s'est fait, que ça soit au Palais des Congrès, ça a été le grand démarrage en 75, pendant 4 semaines, c'était vraiment extraordinaire.
Enfin, moi, je pense que mais il a le pas, sujet il de la musique, on ne peut pas l'accorder comme ça. Moi, je me sens très pressé, là, par rapport à votre grille, on va dire. Si tant est qu'il y ait une grille. Enfin, qu'on peut un peu déborder,
oui,
mais quand même, bon.
Oui.
Alors, bon, je pense que, moi, ça m'embête de parler de la musique comme ça en 30 secondes.
D'accord.
Donc, je préfère qu'on s'arrête là.
D'accord.
Si vous avez d'autres choses de prévu, il vaut mieux qu'on continue avec ça.
D'accord.
Et si vous avez envie qu'on vous donne notre point de vue, et si ça vous intéresse surtout, c'est ça qui est principal, sur la musique de Léo Ferré, mais on se voit un peu plus tard.
D'accord, ok. Bon, ben on va continuer la...
Tu vois que le fils d'un directeur d'orchestre sait diriger aussi une émission de radio.
Oh, j'aime pas la pommade.
Dans ces 24 heures avec Léo Ferré, vous le savez, le premier quart d'heure de chaque heure, c'est un quart d'heure dans lequel vous pouvez choisir la programmation. Et là, on a Jérôme qui a choisi un morceau que, à Divergence, on aime tous énormément. Pourquoi, allez savoir, c'est Richard.
Le morceau de la nuit.
Et voilà.
Richard, encore un petit, vite fait. Monsieur Richard, le dernier pour la route.
Ses yeux qui te regardent, et la nuit, et le jour, et que l'enquête sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. De la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tu défends. T'embarrasse au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
Il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit. Richard, Léo Ferré dans les 24 heures pour Léo Ferré sur Divergence FM. Cyril, une auditrice nous a appelé et souhaite écouter L'âge d'or.
Eh bien oui, c'est Elisabeth qui nous demande L'âge d'or, que l'on va écouter maintenant, je crois, dans sa version en enregistrement studio.
C'est parti.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promène, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile les jours de grand vent. Dans ses cheveux blancs, nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime, vienne, vienne alors. Vienne l'âge d'or.
24 heures avec Léo.
Et la radio qui ne désemplit pas.
Qui se remplit.
Même.
Se remplit. Il est plus de 0h15. Ça fait déjà pas mal de temps que les 24 heures ont démarré. On vous invite, Noctambule, à venir nous rejoindre au 24 Boulevard Pasteur pour nous parler de Léo, pour voir Léo en photo, pour rencontrer Mathieu, le fils de Léo, et pour rencontrer tous les léophiles que nous sommes. Manu, salut.
Salut.
Alors Manu, tu es passé de derrière la vitre avec nous dans le studio.
Ouais, parce que j'en avais un peu marre là.
J'en avais un peu marre, mais je dois dire que tu t'en es très bien sorti pour cette technique qui était très très difficile.
Merci patron.
Voilà, merci.
Manu, nous t'accueillons avec plaisir pour parler d'une interview que tu as fait avec Pascal Comlade et Patrick Chenier.
Il y a une semaine environ, c'était juste avant leur concert qu'ils ont donné jeudi dernier au Théâtre Jean Villard. Une occasion assez rare quand même de voir ces deux oiseaux ensemble, même si on sait qu'ils se fréquentent depuis très longtemps. C'était l'occasion évidemment de les faire parler de Léo, même si au départ la connexion paraît pas forcément évidente, puisque c'est vrai que Pascal Comlade, c'est un garçon qui, il le dit, il le répète, et pas forcément très porté sur la chanson, sur le texte. Il dit carrément qu'il le texte, il s'en fout.
Patrick Chenier.
Patrick Chenier, même si lui, par contre, fait, ouais, lui écrit des textes, c'est pas non plus. Enfin, il a une forme d'expression qui est assez particulière, et ni l'un ni l'autre sont très portés sur le média chanson d'une manière générale. Et moi, il me semblait quand même, enfin, il nous semblait ici à Divergence qu'il pouvait y avoir un lien tangible avec Léo Ferré. Et puis, c'est pas seulement lié au fait qu'ils s'habillent tous les deux en noir, comme on va pouvoir l'entendre tout à l'heure. Alors évidemment, Pascal Comlade, bon, c'est lui pour le coup, c'est vrai qu'il s'est construit un personnage, contrairement à Léo Ferré. C'est le mec qui râle tout le temps. Enfin. On sent qu'il a des coups de cœur, mais c'est toujours, enfin, il se protège derrière cette espèce d'écran, ce personnage d'ours mal léché qui grogne tout le temps et qui casse un peu tout. Alors bon, Léo Ferré n'y coupe pas évidemment. On sent malgré tout qu'il est assez attaché aux chansons de Léo Ferré.
Et puis on sent aussi dans cette interview que vous êtes dans les confidences. En tout cas, l'interview avait été longue à démarrer au niveau de.
Ah, c'est toujours comme ça avec Pascal Comlade.
Et puis après, il est allé et en définitive, tu n'arrivais plus à l'arrêter, quoi.
Ben non, mais tant mieux, c'est des occasions rares et c'est bien quand ça se présente.
Et si les auditeurs savent se rappeler l'interview qui avait été diffusée deux jours de suite.
Ouais, deux parties, ouais.
Ouais, Pascal Comlade et Patrick Chenier parlaient beaucoup de la chanson, la variété française et n'avaient jamais évoqué justement Léo. Et ce qui était surprenant, c'est que cinq minutes plus tard, tu leur faisais parler de Léo Ferré. Et là, d'un coup, les langues se déliaient, c'était une autre façon de parler aussi de la chanson française, c'était quelqu'un d'autre.
Voilà. Alors, d'ailleurs, pour ce qui est de Pascal Comlade, il fait un lien très net entre ce qu'il appelle la chanson, et que lui appelle d'une manière générale variété, et Léo Ferré, qui considère évidemment pas du tout comme de la variété, mais enfin, il le place au-dessus de la mêlée, comme il va le dire dans ce qu'on va entendre très prochainement.
Même tout de suite.
Tout de suite.
Léo.
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 Ils l'ont écouté. Et ils en parlent.
Il va pas me croire, mais Léo Ferré, c'est le type que j'ai vu le plus souvent sur scène dans ma vie. Je pense que j'ai vu une quinzaine de concerts de Léo Ferré. Donc, ça doit peut-être vouloir dire qu'à l'époque, j'aimais bien. Je pense. Je sais. Est-ce que tu as lu la bio de Léo Ferré qui est sortie il y a quelques années? Je pense que les grands fans ont dû le lire, le livre, et je pense que les grands fans ont dû tomber de haut. C'est toujours la même histoire. Il faudrait jamais connaître les individus qui font la musique. Il ne faudrait connaître que les chansons ou la musique. Des fois, c'est très pénible quand tu découvres la personnalité réelle de quelqu'un envers qui tu as eu une certaine affection. C'est un livre très dur sur Léo Ferré, quoi. C'est un livre très dur. Maintenant, c'est vrai, je reconnais que j'ai aimé la période de Léo Ferré quand il travaillait avec Cosimo. Voilà, c'est-à-dire une période de chansons, on peut dire, standard, dans tous les sens du terme, dans du tango, des choses comme ça. Bon, j'ai eu une réelle... ça, c'est une de mes deux... un de mes deux chocs d'adolescent, même de préadolescent, même de musicaux, c'est à Montpellier. C'est deux pianistes, c'est Paul Castagnier et Memphis Slim. Tu vois ? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce que tu veux, je garde un respect énorme pour le pianiste Léo Ferré, pour Paul Castagnier, qui était... je crois un des plus grands musiciens français de ces, d'après-guerre. Quoi. Honnêtement, si tu réécoutes des enregistrements publics de Léo Ferré avec Castagnier au piano, c'est ce type-là est monstrueux. Quoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Léo Ferré
Si on fait abstraction de cette biographie, ta rencontre avec les disques de Léo Ferré.
Je l'ai vu deux fois dans ma vie. Je suis allé comme tout le monde le voir lui serrer la louche, quoi. Mais comme tout le monde, quoi. C'est quelqu'un, bon, parce que je pense, oui, j'avais oublié Ferré quand on a parlé de la chanson. Je pense qu'effectivement, jusqu'à l'âge de, je dirais, 18 ans, je pense que j'ai été pas fan, mais bon, je me suis tapé, je te dis, au moins 15 concerts de Léo Ferré. Tout seul, au piano avec Castagnier, j'ai la période avec Zoho, la période avec les bandes, tout quoi. Mais je n'en... Honnêtement, hein, en toute honnêteté, aujourd'hui, je n'en garde rien. Tu vois, je me suis jamais amusé à faire une reprise d'un truc de Léo Ferré, ou... On avait parlé une fois avec Patrick d'une chanson de Léo Ferré qui est Richard. Mais qui est impossible à récupérer, en fait.
L'ambiance bar.
Qui est une belle chanson quand même. Le quand même était de trop. Non, c'est sûr qu'un type comme Léo Ferré, pour moi, c'est sûr, est au-dessus du lot. Je veux dire, je peux pas le mettre dans le domaine de la variété ou de la chanson française. Je peux pas le mettre dans la même pièce que des gens comme Beko ou Aznavour, qui sont là réellement des gens pour lesquels je n'ai aucun respect. Je veux dire, c'est carrément... C'est le summum de Sardou, tu vois, Beko, Sardou, Aznavour, Souchon. Oh, c'est terrible. Mais je peux pas m'être ferré avec ces gens-là. Tu vois, c'est ça que je comprends pas dans ce terme, la chanson française. Ça, pour moi, ce mec-là n'a rien à faire avec ces gens-là. Rien. Ça, c'est la perception de l'œuvre de Léo Ferré. L'individu, c'est une autre histoire, c'est une autre chansonnette, et je crois, à la lecture de ça, l'individu n'est pas très sympa. Il est pas
sympa. Patrick ?
En ce qui concerne Léo Ferré, j'ai eu l'opportunité de le voir à Montpellier il y a pas mal de temps. Il passait dans un cinéma près de la gare à l'époque, j'avais été le voir, parce que je suis un peu curieux de nature, quoi. Et puis c'est vrai que, bon, au-delà des considérations chansons françaises ou pas chansons françaises, il y a un discours qui était véhiculé, qui est le discours libertaire, auquel je suis particulièrement sensible, donc ne serait-ce que pour ça, j'ai été le voir sur pièce. Bon, ceci dit, Léo Ferré, c'est Léo Ferré. C'est vrai que quand il chante La Solitude ou Il n'existe rien, moi ça me glace, c'est pas le genre de choses qui vous fout le peps en début de journée. Ceci dit, moi je respecte, pour une répartie qu'il a eue et qu'on m'a rapportée pendant un concert, parce que tout en chantant en même temps la grande thématique libertaire, dans son public, il y avait des libertaires, mais qui n'étaient pas forcément d'accord avec sa façon de chanter, justement. Hein. Et donc, un jour, il y a eu quelqu'un dans le public pour lui dire, au milieu d'un concert, « Léo, tu enfonces des portes ouvertes !» Et alors, et c'est là où j'admire, c'est qu'imperturbable, il arrête son accord, il se tourne vers le public, il lui répond, « J'enfonce des portes ouvertes, certes, mais de quelle façon ?»
Ouais, joli. Il y a cinq questions récurrentes qu'on pose aux artistes qu'on sollicite sur cette émission de consacrée à Léo Ferré. C'est une chanson, une phrase, un concert, une couleur et un lieu. Bah, je vais vous la poser aussi. Alors, une chanson d'abord.
Une chanson. C'est très dur, tout simplement parce que c'est vrai que c'est dégueulasse comme question. Parce que déjà, j'ai pas une culture qui est liée à la chanson française. Comme ça m'arrive de le dire, au départ, ma vie fait que j'ai une approche de la musique qui passe pas par la chanson française au départ. Donc c'est vrai que moi, la chanson française, quand je suis arrivé en France, je suis tombé en pleine période, c'était vraiment la dauberie universelle. C'était terrible, quoi. Et c'est vrai qu'au milieu de toute cette dauberie, il y avait Léo Ferré qui surnageait. Mais ceci dit, moi, mes repères musicaux, moi, ça m'arrive d'écouter la pure variété. J'écoute de tout. Alors, un titre. Alors, de Léo Ferré, si, plus précisément, il y a une chanson qui fait partie d'un disque que j'avais et qui était, en fait, un 33 tours qui reprenait des textes de Rimbaud et de Verlaine. Et donc, il y a un poème de Rimbaud qui s'appelle « Les poètes de 7 ans ». Et autant que je me souvienne, à l'époque où j'avais ce disque, cette chanson, ouais, c'est vrai, ça... Le coup du gamin planqué derrière le rideau, qui regarde les... Il y a un côté voyeuriste un peu dans cette expression du poète de 7 ans que j'ai bien aimé. Donc on va dire le poète de 7 ans.
Alors une phrase, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est celle qu'il a prononcée en concert, la répartie.
Voilà. Léo, tu enfonces des portes ouvertes. Et lui de répondre, oui, mais de quelle façon?
Un concert, peut-être celui-là?
C'est le seul auquel j'ai assisté de Léo Ferré. Donc c'était au Régent à l'époque, qui était un cinéma qui était situé en face de la gare, qui n'existe plus. Maintenant, je crois que c'est un hôtel. C'est la même salle d'ailleurs où j'avais vu Magma. Et c'est vrai que c'est le concert que j'ai eu de Léo Ferré, quoi.
Un lieu qui t'évoque Léo Ferré?
Je vais dire le placard à vêtements de Pascal Comblade. Une couleur, le noir.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière. Sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait les poings. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour. Pendant du toit, j'étais surtout vaincu, stupide. Il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand on lavait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne. Et pour des visions, écrasant son œil d'arme, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Craignait les blafards dimanches de décembre où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, aux thés bleus, âcrement prises d'humilité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues.
Même question à Pascal, donc une chanson.
Une chanson, une seule. Hein. Une seule. 20 ans.
Un commentaire ou pas?
Oui, je peux faire un commentaire parce que dans le village à côté de chez moi, il y a habite un ancien de d'Arakiri et de Charlie qui s'appelle Alex Barbier.
Qui fait de la BD maintenant.
Qui fait de la BD. Et tous les ans, sur la place du village, on fait un numéro, lui et moi. Lui, il se travestit en chanteuse réaliste, et moi, je suis au piano, et on chante des choses comme ça. Bon, c'est vrai, la majorité du répertoire, c'est de la merde réaliste d'avant-guerre, mais on a quelques chansons de Ferré, et celle-là est assez... Bon, je l'aime bien, celle-là. Après, j'aurais mis Le Temps du Tango, mais bon, une, on mettra celle-là.
Une phrase.
Écoutez, la seule anecdote dont je me souviens... qui semble être vrai et qui est lié à Paul Castagnier, c'est le jour où il a viré Castagnier. Il semblerait qu'il ait viré Castagnier un jour en plein concert, parce que soi-disant il en faisait trop, Paul Castagnier. Il s'est arrêté, il a dit: Monsieur Castagnier, c'est un concert de Léo Ferré, ce n'est pas un récital de Monsieur Castagnier, barrez-vous Monsieur Castagnier. Et l'autre, le pauvrette, il s'est barré.
Un concert ?
Concert, je pense que le premier, c'est avec Paul Castagnier. Théâtre de Montpellier, théâtre municipal, je dirais 69 peut-être, voire 70, 69 peut-être. Après 68.
Un lieu, ton placard?
Non, mais justement, alors je continue sur le concert. Le boulevard Jeu de Paume, parce que j'étais en vélo. C'est authentique. Je me déplaçais en vélo à l'époque, je faisais un peu de sport. Donc. Et je me suis trouvé au feu qu'il y a au début de Jeu de Paume, à l'angle de la rue du Courreau et la rue qui descend, c'est quoi, c'est la rue Saint-Guillain, si mes souvenirs sont exacts, donc à ce feu-là. Et Et alors j'étais en vélo à l'arrêt au feu, et il y a une voiture qui me longe comme ça, une grande voiture, et il y a Léo Ferré qui sort la tête, qui me dit, petit gars, viens, le théâtre. Et j'ai dit, suivez-moi. Donc je suis passé devant la bagnole et je les ai amenés jusqu'au théâtre, en vélo. C'est authentique, hein. Voilà.
Et pour finir, une couleur?
Ben, le noir, hein. J'aurais du mal, collègue.
Et c'est signé l'homme en noir.
On a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin, comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort, on va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois, quand on est seul, c'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois de ces boucans pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace, quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans, tout est foutu, alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qu'il s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20.